Pendant que votre attention est centrée sur cette voix qui vous parle ici, ou encore là, tout près ici, très loin là-bas, ou même très, très loin. Celle de Desjardins Entreprises est centrée sur plus de 400 000 entreprises partout autour de vous. Depuis plus de 120 ans, nos équipes dédiées accompagnent les entrepreneurs d'ici à chaque étape pour qu'ils puissent rester centrés sur ce qui compte, la croissance de leur entreprise.
Écoutez Dutrisac, Cube Radio.
Loïc Tassé est avec nous pour parler de politique internationale. Monsieur Tassé, bonjour.
Salut Benoît.
Oh boy, as-tu préparé ton popcorn? As-tu tout préparé? Là?
Tu vas mettre
le petit au lit? Tu vas regarder ça avec madame?
Mais il va le regarder aussi.
Hein? Il est rendu à quel âge, fiston?
Ah, il y a 9 ans.
Ah, il y a 9 ans déjà?
Mm-hmm. Oui,
OK,
oui,
donc
oui.
Il est assez grand. Le mien aussi, il y a 9 ans, 9 ans et demi, puis on regarde des affaires politiques ensemble.
Ah ben bien sûr!
Il aime ça, les snoros, hein?
Écoute, ben c'est normal, il se prépare pour le monde de demain.
Mais
il
boy.
Faut les préparer aussi.
Mais
Oui.
Donc, c'est le débat Trump-Biden qu'on attend ce soir. La FADOC s'engueule.
Écoute. J'ai hâte à ce débat parce que j'ai hâte de voir ce qui va arriver. Moi, je pense que Biden va bien paraître. Parce que Trump a tellement décrié Biden, l'a tellement dépeint comme quelqu'un de monde. Et c'est vrai qu'il l'était. Que je pense qu'il peut, il ne peut que bien faire s'il fait quelque chose de bien. Puis moi, je l'ai vu à d'autres occasions. Puis franchement, il était bon. Tu sais, mais dans un débat, est-ce qu'il va être bon? Est-ce qu'il va être capable de tenir le coup devant Trump? Tu sais, puis quel coup vicieux est-ce que Trump va faire? Moi, je m'attends à ce qu'il fasse quelque chose contre Biden, qu'il lance quelque chose. Puis j'espère que Biden aussi a quelque chose, a quelques as dans sa poche qui va sortir contre Trump. En fait, c'est ça qu'on attend tous, tu sais, des coups fourrés qui vont être faits de part et d'autre. Parce que pour le reste, on sait qu'ils vont parler de la COVID-19, on sait qu'ils vont parler de l'économie américaine, on sait qu'ils vont parler de l'international, mais on connaît les réponses de Trump, on connaît les réponses de Biden là-dessus, on va regarder comment il livre le message, quelle impression il donne, mais très franchement, moi, ce que j'attends, c'est ça, c'est les coups fourrés, l'inattendu, tu sais, est-ce qu'il va y avoir quelque chose comme ça? C'est ça que je vais voir. Mais je pense pas que ça change beaucoup, par contre, à moins vraiment de quelque chose de catastrophique d'un côté ou de l'autre. Je pense pas que ça change, malheureusement.
Mais il n'y a pas des républicains mous que Biden peut aller chercher?
Il y a très peu d'indécis. Il y a beaucoup moins d'indécis qu'avec au moment de Clinton. Il y en a 4 fois moins. Puis, tu sais, c'est en bas de 10%. Puis même, il y a des sondages qui disent qu'il y a 2% d'indécis. Donc, les gens ont fait leur idée. Tu sais, depuis. Par contre, il y a des choses qui font très mal. Tu sais, on en a parlé hier, que Trump n'est payé que $750 d'impôts.
Mm-hmm.
Ça passe mal. Parce que tout d'un coup, les gens réalisent que ce on ne sait pas si multimilliardaire.
On ne sait plus.
On ne sait plus. On pense.
Il y a peut-être plus de dettes que toi et moi. Là.
C'est possible aussi. Mais bon, tu sais qu'il est payé que $750 d'impôts dans les 10 dernières années. Ben, il y a personne qui trouve ça très agréable parce que personne n'aime payer des impôts. On comprend qu'il faut le faire, mais on comprend qu'on doit payer des impôts aussi à hauteur de notre richesse à chacun, tu sais.
Mais moi, j'étais conseiller de Biden. Là. Je commencerai en disant, coudonc, ils t'ont-tu oublié sur le toaster, Donald? As-tu vu sa face? je sais pas s'il a brûlé dans son lit de rayons solaires, je sais pas
trop.
Écoute,
je me demande s'il prend pas, tu sais, des gens qui prennent des comprimés de carogène, tu sais, pour se donner un faux teint bronzé. J'ai l'impression qu'il prend ça.
Ça se peut-tu?
Des comprimés aux carottes.
Ouais. Ben, il prend pas au complet parce qu'il y a juste la face, mais le contour de la face est blanc en poche.
C'est parce que c'est peut-être possiblement une question de maquillage. Puis on lui conseille de changer la personne qui le maquille. C'est peut-être aussi parce que il prend des bains de soleil, tu sais. Puis c'est pour ça que t'as les yeux blancs.
Ben oui, il y a ces petites cuillères en plastique là, sur les yeux.
Exactement. Très mauvais pour la peau, faudrait lui dire.
Hein. Oh ben là où je suis rendu, lui, il n'a plus rien à perdre.
C'est vrai. Hein? C'est vrai qu'il n'y a plus grand chose.
Essaye de cacher cette grosse face là, s'il vous plaît. bon, alors c'est ce soir. Il y a Emmanuel Macron là. Le président de la France qui joue à Batman.
Oui, un peu au justice. dossier des relations internationales. Il est en visite dans les pays baltes en ce moment, et puis il essaie, si on parle de la Lituanie, tu sais, qui sont vraiment mécontents de la Russie, qui ont très peur de la Russie, alors il essaie de raccorder ces pays baltes avec la Russie, et il fait la promotion donc d'un discours un peu pro-russe en Europe, en disant, écoutez, c'est notre voisin, on n'a pas le choix de s'entendre avec lui. Il a raison là-dessus, d'ailleurs, à mon avis. Mais donc, tu sais, il s'oppose à Trump là-dessus, puis il essaie de temporiser. Mais surtout, il a fait une déclaration, il a dit que Loukachenko devait partir. Loukachenko, le président biélorusse, et en disant, c'est un dictateur, il doit partir, il doit s'en aller, la rue ne le soutient pas, les gens qui sont des prisonniers politiques, les gens qui fait emprisonner sont des prisonniers politiques, ce sont des otages qu'il garde. Très, très dur comme déclaration, tellement que Poutine a été défendre la Biélorussie en public en disant aussi, ben vous savez, elle subit des pressions externes sans précédent. En d'autres termes, c'est une façon polie de dire à M. Macron, mêlez-vous de vos affaires. Mais là-dessus, moi, je suis assez d'accord avec ce que Macron fait. Mais il était encore plus loin hier, on n'a pas eu le temps d'en parler, avec la classe politique libanaise. Je ne sais pas si on a gardé l'extrait, on pourrait peut-être le passer si on l'a.
Non, ben, je pense pas, non. Ben, laisse le temps, Achille. Ouais, on le dit. Ouais, vas-y.
Écoute, il a parlé de trahison collective de la classe libanaise, de la classe politique libanaise. De trahison. Mais c'est des termes extrêmement durs. Parce que le premier ministre libanais a démissionné, parce qu'il n'est pas arrivé à faire un gouvernement de coalition. Et ça, c'est parce que, à l'intérieur de la classe politique libanaise, le Hezbollah, qui représente beaucoup les intérêts de l'Iran, qui est chiite, donc, et vraiment extrémiste, le Hezbollah n'a pas voulu lâcher le ministère des Finances.
Bon, ben, on l'écoute, Loïc, Achille l'a trouvé, oui.
Le Hezbollah ne peut, en même temps, être une armée en guerre contre Israël, une milice déchaînée contre les civils en Syrie et un parti respectable au Liban. Il ne doit pas se croire plus fort qu'il ne l'est. Et c'est à lui de démontrer qu'il respecte les Libanais dans leur ensemble. Il a, ces derniers jours, clairement montré le contraire. Je ne peux que regretter que les plus hautes autorités du Liban se contentent de constater l'échec en ces temps de responsabilité historique.
Aïe aïe.
C'est dur, hein?
Ouais.
Et c'est vrai ce qu'il dit.
Ah,
c'est très vrai. Et quand l'enregistrement est arrivé vraiment pile au bon moment, le Hezbollah, comme je te disais, veut pas lâcher le ministère des Finances. Or, le pays est extrêmement corrompu et on pense bien que cette corruption passe en partie par le ministère des Finances.
Mm-hmm.
Et c'est eux qui, d'office, depuis des années, ont le poste du ministre des Finances. Puis les gens disent, bon, ça suffit maintenant. Passez-la à quelqu'un d'autre, aux chrétiens, aux mariages, à d'autres.
À quelqu'un de compétent.
Puis ils disent, écoutez, on pourrait avoir des postes, ministre de la Défense, ministre des postes importants, ministre des Finances, ministre des Affaires étrangères. Ça pourrait être en rotation entre les différents groupes religieux au pays. Non, le Hezbollah ne veut pas lâcher les finances. Et c'est eux qui ont donc tout fait capoter. Puis on se pose donc des questions. Est-ce qu'il y a du coulage d'argent qui se faisait au ministre des Finances? Est-ce qu'une partie des problèmes économiques épouvantables dans lesquels sont plongés les Libanais vient pas justement du fait que cet argent allait au Hezbollah, allait à la guerre contre Israël, guerre en Syrie et aux dirigeants du Hezbollah? Ça ressemble beaucoup à ça.
Un mot sur le Nigeria, Loïc?
Le Nigeria, il y a quelque chose de... Au Nigeria, il y a un enfant de 13 ans qui a été jugé par un tribunal de la charia pour blasphème. Il se disputait avec un autre enfant de son âge. 10 ans de prison.
Parce que?
Il a blasphémé. Je ne sais pas exactement ce qu'il a dit. Il a peut-être dit « j'encule Mahomet » ou quelque chose du genre. Tu sais. Allez, blasphème, en prison pendant 10 ans. C'est tellement épouvantable que le monde entier s'est mobilisé. Il y a 120 personnes à travers le monde qui disent, écoutez, on est prêt chacun à faire un mois de prison au Nigeria pour justement, à la place de cet enfant de 13 ans. Et il y a parmi eux, c'est pas n'importe qui, c'est le directeur du musée d'Auschwitz, je te prononce pas son nom, c'est imprononçable, mais qui dit, ben, moi je suis prêt à aller faire aussi un mois de prison. Puis ça, c'est un peu une patate chaude avec laquelle le gouvernement est pris au Nigeria. Pour le moment, le gouvernement dit, ben, écoutez, oui, mais c'est une cour, on peut pas rentrer là-dedans. Oui, mais il y a un sacré problème avec la charia, il y a un sacré problème avec ces lois moyenâgeuses, et on est en train d'emprisonner un enfant de 13 ans parce qu'il s'est disputé avec un autre enfant, puis il aurait dit des paroles qui auraient été blasphématoires. Mais voyons donc. Puis je te signale qu'au Canada, on a toujours une maudite loi sur le blasphème qui n'a pas été appliquée depuis la fin des années 20, 1920. Mais tu sais, je veux dire, pourquoi est-ce qu'on n'annule pas ça? Ça n'a aucun sens d'avoir des lois sur le blasphème.
Écoute, c'est pas moi qui va te contredire.
Non, je sais.
Avant qu'on se quitte, un mot sur cette guerre entre l'Arménie et l'Azerbaïdjan.
Ben, il y a une guerre qui bat son plein en ce moment entre les deux pays, au Nagorno-Karabakh, et c'est un grand territoire qui fait 4 400 km². La majorité de la population de ce territoire-là est arménienne, à 91%. Le reste, c'est des Kurdes et des Tartares, mais le problème, c'est que ce territoire est en Azerbaïdjan et non pas en Arménie. Alors, il y a évidemment toutes sortes de problèmes là-dedans, parce que les Arméniens se plaignent d'être, qui vivent en Azerbaïdjan, dans ce territoire d'Inikoro-Karabakh, se plaignent d'être maltraités par le gouvernement d'Azerbaïdjan. Ils voudraient avoir leur indépendance, ou tout au moins être rattachés à l'Arménie. Et en fait, les esprits se sont beaucoup échauffés dans les deux pays, et on est en guerre. Il y a déjà eu une centaine de morts de part et d'autre. Les tanks, les chars d'assaut, les avions sont sur place. C'est une vraie guerre. Puis, on essaie de calmer ça dans la région. La Russie, qui est amie des deux pays, essaie de calmer le tout. Mais Erdogan, bien sûr, dit qu'il va appuyer l'Azerbaïdjan parce que Erdogan n'aime pas les Arméniens. On se souvient que les Turcs ont fait un génocide contre les Arméniens et il reste quelque chose, malheureusement, de ça dans l'esprit d'Erdogan. Pas de tous les Turcs, mais d'Erdogan. Et il menace donc de rentrer dans cette bataille. Vraiment, c'est un gars qui veut aller en guerre, Erdogan. Malheureusement, donc, il va falloir suivre cette histoire de guerre en espérant que ça se calme, mais c'est pas drôle non plus.
Ouais, lui, il veut aller en guerre, mais il va envoyer les autres faire la guerre. Lui,
ah ben, bien sûr. Ah, ben, oh, non, mais il y a une armée turque qui est quand même très forte, puis il envoie son armée turque. Mais tout le monde pense, en fait, tout le monde, beaucoup pensent que, en fait, le projet de Erdogan, c'est de revenir à l'ancien empire ottoman, c'est d'agrandir le territoire de la Turquie. Et d'ailleurs, il y a quelques années, il a demandé aux femmes turques de faire davantage d'enfants, alors que la Turquie a 80 millions d'habitants. Puis, tu sais, ils ont des ressources pas excessives en eau, etc. Donc,
ça rappelle l'Ayatollah Khomeini en 1979, hein, en Iran, qui avait dit la même chose aux femmes.
Oui, il est moins pressé, lui. Erdogan est un islamiste à petits pas. Il avance tout doucement. Tu sais, il a par exemple transformé Sainte-Sophie en mosquée à nouveau. Cet immense musée extraordinaire. Puis donc, il avance constamment à petits pas. C'est un islamiste pas pressé. Mais tu sais, c'est la théorie de la grenouille que tu mets dans l'eau froide. Tu sais, si tu la jettes dans de l'eau chaude, elle ressort immédiatement. Mais si tu la mets dans l'eau froide, puis tu mets le feu en dessous, ben, elle va rester là quand l'eau va se mettre à bouillir et elle va mourir. Mais on a un peu l'impression que Erdogan soumet l'Occident à ça.
Parfait. Une bonne soupe aux grenouilles, c'est toujours une bonne proposition pour dîner. Merci.
On a de tout à cette émission.
Ouais, je vois ça. Salut, à demain.
Salut, à demain.